Vous écoutez On lit pour vous.
Handke, le dépaysant, une chronique de Robert Lévesque, parue le 7 avril 2025 dans Les libraires. Une journée, d'abord pour Peter Handke, ce ne saurait n'en être qu'une seule. Cette journée va s'étendre sur quelques mois, voire un an, voire plus, telle les journées inspirées du siècle d'or espagnol qui divise le soulier de satin de Claudel et nous embarque pour 11 heures de spectacle dans 20 ans de péripéties guerrières et amoureuses. Qui le saurait, qui la connaîtrait, la durée de cette journée? Ni son lecteur, ni lui-même, l'auteur, ne pourrait en témoigner. Et qu'importe? Dans ma journée dans l'autre pays, écrit dans la foulée du Nobel, paru suivant sa consécration à Stockholm, Handke donne à nouveau la preuve de son immense talent. L'écrivain autrichien, né en Carinthie, comme Musil et Thomas Bernhard, demeure à 82 ans fidèle à sa manière faite d'errance et d'abîmes entr'ouverts, aperçus, d'éclatements et d'énigmes, de dislocations. Rappelons qu'avec Outrage au public, sa pièce de théâtre écrite à 21 ans, son intention était de pousser vers la sortie les spectateurs déboussolés par une non-histoire non jouée. Et puis maintenant, cette journée dans l'autre pays, là aussi en serait-ce vraiment un? Quel autre? Dans ce transfert vertigineux d'un pays à l'autre, qui aurait duré un temps incalculable, aucun des pays ne sera nommé, situé, identifié, dans un opus qui relève de maints genres littéraires entremêlés, le roman, la fable, l'essai, la poésie en prose, un rébus selon sa volonté audacieusement littéraire de tout toujours reprendre à zéro, tout balayer des mornes normes de l'écriture, de casser les temps, se débarrasser du récit trop rétrécissant et d'envoyer se voir ailleurs la normalité, même la vraisemblance. Si cette journée est aussi infinie qu'indéfinie, le récit qu'il en fait est très court, la plaquette faisant 70 pages à peine, et à peine pour le lecteur d'en saisir toutes les réalités. C'est la journée d'un homme, un fruiticulteur, qui aurait connu une période sans conscience, un long somnambulisme durant lequel il aurait été possédé par plusieurs, par d'innombrables démons. L'incipit. Il y a dans ma vie une histoire que je n'ai encore racontée à personne. C'est Handke qui se met à l'écriture en se faisant le narrateur de narrateurs, car, de cette période d'une vie vécue sans conscience, il ne se souvient de rien, mais en a appris les faits et gestes par les autres via le oui-dire des habitants qui, fascinés, effrayés, l'observèrent longtemps tout en le fuyant. Ce récit, donc, qu'il entreprend d'écrire après les faits, et maintenant, bien tard, j'y arrive enfin, vient des dires des autres, du village, en particulier de sa sœur, seul membre vivant de sa famille, qui prit soin de lui, alla le nourrir 3 fois semaine au fond du vieux cimetière abandonné où, toutes les nuits, il se réfugiait sous une petite tente. Ajoutant à l'étrangeté, ce fruiticulteur possédé, mais pas dangereux, s'exprimait lorsque le jour il errait dans le village, dans une langue inconnue, que personne n'arrivait à saisir. S'il semblait injurier le monde, il n'y avait cependant pas de rage dans le ton, l'exprimer, le lâcher. On pouvait le croire oracle, mais de quoi? De qui? Handke écrit « Le chant qui s'élevait de mon coin d'herbe et de broussailles dans la steppe était pourtant décidément bas. Sans les éclats de mon articulation dans la langue inconnue. Un pur chant, sans même un mot. Quelques-uns seulement l'ont entendu. Ils ont raconté que c'était une sorte d'écho. Qui venait d'où? » Cette déambulation étrange et irrationnelle constitue, en 32 pages, le premier des trois chapitres sans titre du livre. Jusque-là, tout va, on va dire. Le Handke de la nuit morave, de l'absence, du recommencement, manie à la perfection les hantises, les errements, le niveau de vertige, avec une maestria qui en fait l'un des plus importants écrivains vivants. C'est dans la seconde partie, avec ses 34 pages, que la journée, le soi-disant voyage, va avoir lieu. Mais sans le oui-dire des narrateurs du coin, sauf celui de sa sœur qui ne le quittera pas. Et je me retrouvai avec ma sœur sur la rive d'un lac, le seul de notre pays, avec l'autre pays sur la rive d'en face. Un regard alors va le saisir, le regard d'un homme dans une barque. Malgré la distance où il était de ma sœur et moi, et malgré le contre-jour décuplé par la lumière du lac, ses pupilles m'apparaissaient proches, on ne peut plus proches et distinctes. Et je me sentais, non, je me savais vue par ses yeux comme jamais je n'avais été vue par aucun être humain. Le fruiticulteur égaré va alors sentir, dans l'intensité de ce regard, que le sort va le quitter. Ils partirent de moi, les démons. Et là, Handke, celui qui écrit, nous dit dans une parenthèse « Et maintenant, en écrivant l'histoire, je le jure, un nuage parfumé m'envahit les narines, un mélange pas si désagréable de fragrances rares que chaque lecteur humera comme il le sent. » Le critique allemand, George Arthur Goldsmith, sur l'écrivain autrichien, Handke, à force de concentration, parvient à ce point d'intimité où celui qui écrit bascule en celui qui le lit. L'exemple est magistral avec « Ma journée dans l'autre pays ». Je reviens à Montesquieu, qui se disait prosateur, ce qui était en son temps un signe de modernité, et qui, dans ses pensées, depuis son 18e siècle, écrit « Un homme qui écrit bien n'écrit pas comme on a écrit ». Dans la troisième partie du bouquin, 4 pages, le fruiticulteur, débarrassé de ses démons, rêve qu'il se retrouve dans sa niche du vieux cimetière et il y voit un miroir somptueux devant lequel, s'en approchant, il va frémir jusque dans ses os. Un étranger me regardait, sans la moindre ressemblance avec moi, un total inconnu, comme seul peut l'être un inconnu en rêve. Cet inconnu bat des cils et une confiance lui viendra car, sur ses lèvres, le fruiticulteur démonisé lit « N'aie pas peur ». La littérature pour Handke, considérée comme un art de la voltige, est tout entière faite de tension, d'une mise en tension. C'est un état de contraction qui, atteint, fait s'envoler tous nos repères de lecture et nous ouvre à des pays qui n'existent pas, à des pays sans temps ni frontières. C'était Handke, le dépaysan, une chronique de Robert Lévesque, parue le 7 avril 2025 dans Les Libraires.
La guerre tarifaire menace l'action climatique, prévient la commissaire au développement durable. Un texte de François Carabin, paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. La guerre tarifaire avec les États-Unis n'a rien pour rassurer le chien de garde québécois de l'environnement. Dans un rapport où elle critique vivement les mesures de protection du territoire prises par le gouvernement Legault, la commissaire au développement durable dit craindre pour l'avenir de l'action climatique au Québec dans un contexte commercial tendu. Dans le contexte actuel, particulièrement en raison de l'incertitude commerciale, je m'inquiète que les efforts consacrés à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques soient limités ou repoussés afin de laisser place à d'autres priorités, ce qui ne serait pas sans conséquences pour les années futures, a écrit Yannick Lambert en introduction d'un volumineux rapport de près de 240 pages déposé au Salon Rouge jeudi le 24 avril 2025. La commissaire au développement durable emboîte ainsi le pas au comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement en matière d'environnement, qui avait écrit en janvier 2025 au gouvernement de François Legault pour l'exhorter à poursuivre résolument ses efforts malgré l'incertitude générée par la situation à la frontière sud. Ce sont des crises, ce sont de grands enjeux mondiaux, puis on doit continuer de faire les bonnes actions pour y faire face, a soutenu la commissaire au moment de présenter son rapport à la presse parlementaire. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a affirmé jeudi que la conjoncture avait changé et qu'il fallait s'adapter. C'est à l'image du gouvernement. On a toujours été très pragmatique dans notre approche et non pas dogmatique, a-t-il lancé, sans dire comment ou quand son gouvernement allait changer ses comportements. Trop de bois récolté. Dans un contexte où le territoire et les forêts sont déjà en péril, il est indispensable que le gouvernement ne dévie pas de ses objectifs, réitère la commissaire. Dans un chapitre de son rapport consacré à la protection des milieux forestiers, elle dit s'inquiéter plus particulièrement du rythme auquel le bois est récolté au Québec. La planification forestière, telle qu'elle est réalisée, met une pression supplémentaire sur la forêt et pourrait affecter sa durabilité, affirme-t-elle. La stratégie nationale de production de bois présente une cible d'augmentation des volumes de bois récoltés en forêt publique et privée. Or, les changements climatiques pourraient au contraire exiger une baisse de la possibilité forestière. Le dépôt de ce rapport survient par hasard au lendemain de la présentation par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, d'un projet de loi réformant le régime forestier. En conférence de presse, mercredi le 23 avril 2025, la ministre caquiste n'avait pas caché qu'elle souhaitait voir le volume de bois récolté dans certaines régions augmenter. Dans son rapport, Yannick Lambert constate que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a peu ajusté ses pratiques forestières pour augmenter la résilience de la forêt. Sa stratégie d'adaptation au changement climatique, en cours d'élaboration depuis 2016, n'a toujours pas été publiée. Sa stratégie d'aménagement durable des forêts n'a pas été mise à jour en 10 ans. Ces éléments sont nuisibles au climat dans la mesure où les forêts contribuent naturellement à l'atténuation des changements climatiques, est-il écrit dans le rapport d'avril 2025 de la commissaire. Interrogé sur la réforme proposée du régime forestier qui réserve environ un tiers du territoire exploitable à l'industrie, Mme Lambert a affirmé qu'elle attendrait de voir si elle sera invitée aux consultations particulières avant de commenter plus précisément. « Nous allons suivre l'étude du projet de loi, mais il devrait y avoir des actions faites par le ministère pour faire en sorte de corriger les lacunes qui sont identifiées dans le rapport », a-t-elle dit. « Des aires protégées vraiment protégées ?» La protection du territoire bat de l'aile au Québec, constate en outre Mme Lambert. Si quelque 17% du territoire en milieu continental est protégé à l'heure actuelle, l'objectif pour 2030 est de 30%. Seule une partie de ces hectares bénéficie d'un statut de protection permanent. Au total, 78,5% des territoires inscrits au registre des aires protégées ont plutôt un statut provisoire. Cela signifie qu'ils ont un plan de conservation datant en moyenne de 15 ans ou pas de plan de conservation du tout. Le gouvernement tarde à faire les démarches pour que des territoires obtiennent un statut de protection permanent, constate la commissaire dans son rapport, rappelant au passage qu'au Québec, un projet de protection d'un territoire est rejeté dès qu'un autre ministère s'y oppose. C'était « La guerre tarifaire menace l'action climatique », prévient la commissaire au développement durable, un texte de François Carabin, paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.
Barbenheimer sous sa vague kitsch. Une chronique d'Odile Tremblay, parue le 3 août 2023 dans Le Devoir. Dans son essai « L'art du roman », publié en 1986, le très regretté Milan Kundera se penchait beaucoup sur le kitsch, concept au cœur de son célèbre roman « L'insoutenable légèreté de l'être ». Son œil voyait l'esthétique des médias de masse se jeter corps et âme dans le « vouloir plaire au grand nombre à tout prix ». Offrir au conformisme ambiant les idées reçues qui nous arrachent des larmes d'attendrissement sur nous-mêmes, sur les banalités que nous pensons et sentons, c'est susciter l'ivresse aveugle des foules devant l'autel. Rêve de nombreux promoteurs culturels et de politiciens. Caresser le public dans le sens du poil n'a pas d'époque, entendons-nous. La nôtre est seulement mieux équipée que les précédentes pour atteindre ses cibles. Après la mort de l'écrivain tchèque, puis m'a plongé dans la lecture de cet essai, l'univers extérieur m'a semblé soudain une chambre d'écho à ses pertinentes réflexions. Il les énonçait pourtant avant l'ère des réseaux sociaux. Sous des accents prophétiques, Kundera prévoyait aussi, il y a près de 40 ans, « Un jour, toute la culture passée sera complètement réécrite et complètement oublié derrière son « rewriting ». L'auteur de « La plaisanterie » aura eu le temps d'assister au triomphe de ses théories avant de s'envoler, tout en ratant les dernières pousses kitsch de sa saison. Ainsi, la naissance du mot-valise « Barbenheimer », créé en juillet, sur la toile, par un anonyme facétieux ou un publiciste avisé et masqué. Ce mariage des deux superproductions, sorti le 19 juillet, aura accru de façon exponentielle le succès et du Barbie de Greta Gerwig et de l'Oppenheimer de Christopher Nolan. Séduits par le mot « amalgame » désormais magique, maints spectateurs ont voulu visionner le duo de films afin de participer à un énorme mouvement de foule. Les grands écrans affichent complets devant ces deux titres. Cinéplex pavoise, la machine médiatique s'emballe. Cette ruée dans les cinémas, inespéré rebond post-covidien, procède du kitsch du marketing à son sommet. Deux œuvres aux antipodes reliées par un coup de pub fumant, né on ne sait où, se partagent les bonbons du box-office. Ces films, certes attendus en amont par les cinéphiles, ne s'adressaient pas au même public. Entre une comédie kitsch par nature, mollement satirique, de niveau féminisme 101, à l'imagerie popsicle, Barbie, et une œuvre historique exigeante et tragique, Oppenheimer, très dialoguée, nourrie par la performance exceptionnelle de Cillian Murphy, en inventeur de la bombe A, le fossé abyssal s'est soudain aplani. Miracle du gars des vues. Le kitsch du mot valise n'a pas échappé aux internautes japonais. À quelques jours de l'anniversaire des bombardements atomiques américains sur Hiroshima et Nagasaki, aboutissement du film de Nolan, le terme Barbenheimer leur semble indécent. D'autant plus que Warner Brothers, qui engrange les recettes du clinquant Barbie, a avalisé sur son site l'emploi du terme champion mal attaché au noir Oppenheimer. Des excuses des dirigeants du studio tombaient à plat. Comment s'opposer à pareille tornade médiatique? Déjà, la campagne promotionnelle de Barbie avait tapissé de roses luminescent sa voix royale. À l'écran, la cinéaste de Lady Bird verse sur l'iconique poupée de Mattel, fougueuse Margot Robbie, des jets de couleur gomme-ballon. Sur Ken aussi, campé par un Ryan Gosling rigolo en faire valoir Fallo, sa virilité diluée sous une teinte Léo-fraise. Les tenues de plusieurs spectatrices dans la salle rivalisent avec celles de l'héroïne au royaume de Barbieland. Kitsch, dites-vous? Libre à chacun de savourer au premier degré cette comédie comme une glace aux framboises un jour de canicule. Et tant mieux si elle accroche des sourires. Reste que son vernis féministe aide la poupée iconique d'une époque formatée, 1959, à se refaire une vertu planétaire au 21e siècle. En caricature contemporaine indépendante et imparfaite, elle offre aux filles un modèle bonifié, certes, mais dessiné à gros traits devant des silhouettes masculines écrapouties. La maison Mattel, productrice, à coup de répliques d'autodérision au scénario, se moque elle-même du cliché de sa poupée démodée, tout en lui substituant une autre figure d'époque mal débarbouillée. Voici Barbie, aussi conformiste dans son profil d'égérie contemporaine qu'en princesse du jet-set, surgit des fantasmes d'antan. Les techniques de placement de produits Mattel font merveille. Ces poupées, dans leur boîte, se vendent comme des petits pains chauds. Que roule le commerce? Quant à Oppenheimer, il récolte une audience élargie que ses vertus austères ne présageaient guère. Comme quoi, le kitsch peut profiter aux vrais méritants lorsqu'une vague rose se mêle de les propulser en chantant. De ce paradoxe, Kundera eut savouré la pleine ironie. C'était Barbenheimer sous sa vague kitsch. Une chronique d'Odile Tremblay, parue le 3 août 2023 dans Le Devoir. Thank you.
médecin, please. Une lettre de Guy Daoum parue le 27 juillet 2023 dans Le Devoir. Je suis sans médecin de famille depuis bientôt 3 ans. Je m'accommode bien des services offerts par le GAP et, même si je suis galvaudé un peu partout dans mon secteur, je reçois de bons services et de bons soins. Voilà que cette semaine, on m'annonce que l'on a enfin attribué mon dossier à un médecin de famille et qu'un premier rendez-vous téléphonique est prévu dans les prochains jours. Heureux et fier de notre système de santé qui se réorganise et tente l'impossible pour nous confier à nous, les orphelins, un médecin, je me prépare à ce premier contact avec mon dossier bien organisé. J'ai reçu l'appel du médecin presque à l'heure prévue. Toutefois, la première question que ce docteur m'a posée, après m'avoir demandé mon nom, est s'il était possible que je lui parle en anglais, car il est plus à l'aise dans sa langue maternelle du fait qu'il est originaire de British Columbia. J'ai dû lui dire que, bien que je sois bilingue, il était hors de question que je lui parle en anglais au sujet de ma santé, ici au Québec, autrement qu'en utilisant moi aussi ma langue maternelle. Il en a conclu immédiatement qu'il ne pourrait pas être mon médecin de famille et qu'il remettrait mon nom dans la liste. Merci et bonsoir, sans plus. Le voilà dégagé de parler français et moi, je suis de retour à mon orphelinat. J'espère que je ne me retrouverai pas sur la liste noire de Québécois francophones vivant au Québec et refusant les faveurs de médecins anglophones qui sont tellement plus à l'aise pour nous soigner en anglais. Si j'avais été un anglophone vivant au Québec et maltraité entre autres par les politiques linguistiques, j'aurais eu un médecin de famille sur le champ. Surveillez votre santé, si vous en êtes encore capable, sans supervision de votre médecin de famille. C'était Un médecin, please. Une lettre de Guy Daoum parue le 27 juillet 2023 dans Le Devoir.